Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouvel audio. Suite à la peinture intuitive que l'on a faite, j'ai beaucoup recherché, fait des recherches de mon côté par rapport à cet enseignement d'avoir un féminin lunaire et solaire, et pour moi d'aller chercher également quel pouvait être le pendant masculin, donc là aussi un masculin lunaire et solaire, et j'ai pu voir que dans cette double dualité finalement, donc de notre personnalité, cette quaternité si chère à Carl Gustav Jung, qui représente la totalité de soi, il y avait deux personnages blessés, ce qui correspond au masculin lunaire, donc tel que je le vois, c'est l'homme vulnérable qui est dans ses sentiments, ses émotions, donc on va pouvoir dire l'homme de cœur, et la femme de sagesse, la femme de pouvoir, car en fait, du côté du féminin, et ici, ce qui est intéressant, c'est le fait de se sentir impuissante et sans pouvoir, notre féminin solaire, un peu plus, qui serait touché. Et la légende que j'ai envie de partager avec vous, celle du chevalier Gauvin, peut se traduire par la légende de la femme de sagesse et de l'homme de cœur. Donc elle est tout à fait appropriée pour cet atelier, et parce que son message est déjà à la fois ancien, puisque c'est quand même... On attribue les dates, alors je ne suis pas du tout historienne, ni vraiment passionnée de l'histoire des légendes arthuriennes, mais pour moi on est au début de l'an 1000, donc c'est une histoire qui a 1000 ans et qui est finalement encore très d'actualité. Alors, il s'agit en fait de la légende de Gauvin et de Dame Ragnell, qui va donc être le portrait en fait de la guérison du masculin blessé et du féminin tordu, changé, métamorphosé et blessé lui aussi. Je n'ai pas la légende sous les yeux, donc je vais devoir vous la raconter, mais c'est un exercice intéressant aussi. Et voilà, ça se passe un jour d'été où Gauvin, qui est un des chevaliers de la table ronde, mais plus encore, c'est le neveu du roi Arthur, il est justement avec son oncle et avec d'autres chevaliers de la cour de Camelot. Et ils sont de retour d'une journée de chasse. Alors, je crois que c'était Inglewood, les bois d'Ingle. Et lui ne participait pas, Gauvin, à la chasse, et il attend en fait que les chevaliers et son oncle reviennent. Et ce retour de chasse est un peu surprenant parce que le roi semble pâle, pas bien du tout. Il tremble de ses membres. Et Gauvin, qui est vraiment quelqu'un de loyal et de fidèle, s'inquiète de l'état de santé de son oncle et le suit jusqu'à sa chambre en lui demandant tout le temps qu'est-ce que c'est, mais le roi ne peut rien dire. Il est comme stupéfait, muet, on voit juste qu'il est pas bien. Et enfin, dans sa chambre, une fois qu'ils sont seuls, il lui raconte ce qui s'est passé. Il lui dit que, alors qu'il chassait, il s'est retrouvé seul. Et qu'en étant seul, tout d'un coup, il se fait accoster par un autre chevalier, un chevalier courageux, sans peur, des pays nordiques de l'Angleterre, et que son nom était Gromer, et qu'il venait pour asseoir sa revanche à cause de la perte de ses terres. Donc il venait là pour combattre Arthur, mais Arthur est fort, donc il combat, mais cette fois-ci, Arthur est vaincu, il croit qu'il va mourir, mais le chevalier lui laisse la vie sauve, lui donne une chance en tout cas de sauver sa vie, en le rencontrant pile dans un an au même endroit. Et en lui laissant une question à laquelle il doit répondre, il doit trouver la réponse en un an. Et cette question, c'est qu'est-ce que les femmes désirent le plus que tout? Qu'est-ce que désirent les femmes? Quel est le grand, grand désir des femmes? Et s'il trouve la réponse correcte à cette question, eh bien, sa vie sera épargnée. Il a un an pour réfléchir. Et Gauvin assure Arthur qu'ensemble, ils vont pouvoir être capables de trouver, surtout en un an, la réponse correcte à cette question. Et tant qu'à faire, pendant ces 12 mois qui les séparent de la prochaine rencontre, même d'envoyer parmi ses chevaliers les plus loyaux, aller chercher des réponses dans tous les coins du royaume. Et ainsi fut fait. Il collectionne de nombreuses questions et comme de nombreuses réponses à cette question. Et puis, l'année s'écoule, le jour se rapproche de plus en plus. Et Arthur n'est pas serein parce qu'il sent qu'aucune des réponses qu'ils ont accumulées jusque-là, tous ensemble, n'est vraiment la vérité. Il a cette intuition-là qu'il n'y a rien qui sonne juste. Et quelques jours avant la rencontre programmée avec le chevalier Grommer, Arthur se promène dans ses terres, dans ses landes d'Angleterre, humide, venteuse et magnifique. Et alors qu'il traverse les bruyères, il arrive devant un immense chêne qu'on imagine gardien du lieu. Et devant ce chêne se trouve une femme beaucoup trop grande, beaucoup trop moche, qui est presque grotesque à regarder, vraiment hideuse. Et elle est aussi énorme, donc elle est grande, elle est grosse, elle est imposante, sa peau est laide, elle a plein de boutons, de verrues, ses cheveux sont recouverts d'araignées, enfin vraiment, vraiment, voilà. Elle ressemble plus à un animal en fait qu'à un humain, et surtout encore moins qu'une dame auquel le roi Arthur peut être tant habitué. Et son nom, c'est quand même Dame Ragnell. Et cette femme va s'approcher d'Arthur et lui dit qu'elle sait à propos de la rencontre qui a lieu dans quelques jours parce qu'il s'agit de son beau-frère. Et elle a la réponse, la juste réponse, la réponse correcte à la question. Et elle lui dit qu'elle est d'accord de lui donner la réponse, mais à une condition. Que notre ami, notre chevalier Gauvin devienne son mari. Alors on peut imaginer Arthur, Gauvin c'est un chevalier loyal, fidèle, avec de belles valeurs, comparé à certains autres chevaliers de la table ronde, et en plus c'est son neveu, il est totalement sous le choc, il se met à pleurer, il dit non, il ne peut pas faire ça à son fidèle Gauvin, c'est impossible. Il ne va pas donner son neveu, quelqu'un, son être aussi cher, à quelqu'un comme ça. Et elle lui répond, Arthur, je ne vous ai pas demandé de me donner Gauvin. Je vous ai demandé à ce qu'il devienne mon époux, c'est donc que si Gauvin lui-même est d'accord de m'épouser, je vais donner la réponse. Et voici mes conditions. Elle lui demande de ne pas réfléchir tout de suite, de prendre le temps de réfléchir et de se retrouver au même endroit devant ce grand chêne, demain à la même heure. Et elle disparaît. Arthur, on l'imagine bien, est dans tous ses états parce que il en est quand même à se dire que pour avoir la vie sauve, il va devoir gâcher la vie de Gouvin en lui demandant d'épouser cette femme absolument horrible pour le sauver. Et alors qu'il rentre à nouveau dans son château, Gauvin rencontre le roi et il voit à nouveau que quelque chose ne va pas, qu'il est tout pâle. Et de but en blanc, il demande immédiatement à Arthur qu'est-ce qu'il s'est passé lors de sa balade. Au début, Arthur ne veut même pas en parler. Il refuse, en tout cas, de le dire à Gauvin, mais il insiste tellement, il voit bien que le roi Arthur ne va pas. Alors il lui raconte tout, il raconte la rencontre, il raconte également les conditions pour sauver sa vie. Et qu'est-ce qui se passe? Forcément, Gauvin est absolument enchanté. Il est heureux d'avoir qu'une solution pour sauver la vie de son roi soit ainsi trouvée. Et il est content qu'en plus ce soit par lui que Arthur puisse avoir la vie sauve, que finalement lui peut faire quelque chose pour lui sauver la vie. Arthur, alors on imagine bien, hein, ce sont des grands valeureux personnages. Arthur lui dit qu'il ne peut pas se sacrifier pour lui. Gauvin lui répond que c'est son choix, que c'est sa décision, et que il viendra lui-même demain avec Arthur pour dire qu'il est d'accord pour se marier. À la condition qu'effectivement, ce soit bel et bien la réponse qui lui permette de sauver sa vie. Arthur et Gauvin ne sont pas non plus tellement stupides, donc ils veulent attendre que l'entrevue avec le chevalier Gromère ait lieu avant de du coup se marier, mais ils s'engagent avant que si c'est bien ça, eh bien ils consentent à l'épouser. Arthur et Gauvin sortent le lendemain, rencontrent Dame Raguenel et lui disent qu'ils sont d'accord, qu'ils acceptent ces conditions. C'est le lendemain que a lieu la rencontre d'Arthur, où il doit retrouver donc le chevalier Gromère seul, sans armes, donc dans les bois d'Inglewood. Et ce que fait Arthur pour épargner la vie de Gauvin, c'est qu'il ne va pas tout de suite donner la réponse donnée par Dame Raguenel. Il va d'abord essayer les autres réponses qu'ils ont trouvées partout dans le royaume pendant ces 12 mois. Donc il teste d'abord toutes ces questions et ce n'est jamais la bonne réponse. Au bout d'un moment, forcément, le chevalier Gromère en a assez. Il commence à lever son arme et juste avant de l'abaisser, Arthur lui dit: attends, attends, j'ai encore une seule réponse. Ce que les femmes, ce qu'une femme désire le plus, c'est d'avoir le pouvoir de la souveraineté, le droit d'exercer selon sa propre volonté. Et alors, là, le chevalier Gromère devient fou de rage parce qu'il sait directement qu'Arthur a dû apprendre la réponse à cette question, justement de son entourage, et on pense même que il découvre immédiatement que c'est Dame Raguenel qui lui a dit. Il jure, il frappe les troncs autour de lui dans la forêt et il maudit sa sœur et il disparaît. Gauvin tient sa promesse. Il épouse Dame Raguenel le même jour. Et après la fête du mariage en lui-même, qui n'est pas très festive, puisque on peut imaginer un petit peu le choc et le silence de toutes les dames de la cour, de tous les chevaliers qui entourent Arthur. Et ils finissent par conduire les nouveaux époux dans leur chambre, toujours un petit peu dans cette atmosphère d'être sous le choc. Et arrivés dans leur chambre, Dame Raguenel demande à son époux Gauvin de bien vouloir l'embrasser. Et Gauvin, que fait-il? Eh bien, il s'exécute. Il se penche vers elle. Il l'embrasse. Et alors qu'il recule, il se trouve soudain devant une femme jeune, magnifique, avec de beaux yeux et un beau sourire sur son visage, ravi, magnifique. Alors Gauvin est sous choc, forcément. Il se demande quelle est cette sorcellerie et il lui demande qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui s'est passé? Alors elle lui explique tout, elle lui explique que justement son frère l'avait toujours détesté et que il avait demandé à sa mère, à lui, qui n'est pas la même mère qu'elle, ils partageaient un père en commun, mais pas les mêmes mères, et que sa mère, donc au chevalier Gromère, était une sorcière, et il lui a demandé de la changer en une monstrueuse créature. Et de faire en sorte que ce sort ne soit levé que par un des plus grands chevaliers de Grande-Bretagne, à condition que par sa volonté propre, il se marie avec elle. Gauvin lui demande mais pourquoi son demi-frère la détestait autant? Et elle lui répond qu'il l'a toujours vue comme une femme trop courageuse et qui était trop rebelle et qui le défiait beaucoup trop. Il ne supportait pas que qu'elle commande, qu'elle recherche à avoir une propriété et qu'elle soit souveraine de sa personne. Donc on voit déjà une femme médiévale, très dans son temps, qui à l'époque avait beaucoup de droits, hein, beaucoup plus qu'on l'imagine, puisque c'est la Renaissance qui a éliminé beaucoup des droits des femmes qu'elles avaient vers l'an 1000. Et Gauvin sourit d'admiration et d'émerveillement parce que le sort est levé, donc à la fois c'est une épouse magnifique et en plus une femme forte qui ne se laisse pas faire, qui a du caractère. Et Gauvin est absolument ravi. Mais elle lui explique que le sort est seulement levé en partie. Elle lui explique que lui, Gauvin, son époux, a maintenant un choix à faire et que ce sera fait selon sa volonté, selon ce qu'il choisira. Il doit choisir entre le fait d'avoir sa femme dans la réalité de ce qu'elle est, soit la nuit ou soit la journée. Donc de choisir quand est-ce qu'elle sera belle et quand est-ce qu'elle sera hideuse. Est-ce qu'il préfère montrer une femme magnifique la journée et dormir avec une femme un peu plus monstrueuse, ou l'inverse, avoir une magnifique jeune fille la nuit dans son lit et montrer à tout le monde que la forme un petit peu grotesque de sa femme dans la cour et au château. Elle lui dit surtout, réfléchis bien, prends ton temps avant de faire ton choix. Gauvin réfléchit un moment, pas très longtemps, puis il se met à genoux devant elle, lui prend la main et en la regardant dans les yeux, il lui dit que c'est un choix qu'il ne peut pas faire parce que c'est son choix à elle. C'est son choix qu'elle doit faire. Il lui dit que peu importe ce qu'elle choisit, il sera son support, peu importe ce qu'elle choisit. Et là, Dame Ragnell explose de joie et elle lui dit qu'il a donné la bonne réponse, qu'effectivement, en choisissant de laisser le choix à sa femme, sa souveraineté, comme la réponse avait été donnée au chevalier Gromère, eh bien ça effaçait totalement le sort. La condition était celle-là pour que tout soit levé. C'est que une fois qu'elle ait épousé le plus grand ou un des plus grands chevaliers de Grande-Bretagne, eh bien son mari devait choisir librement de lui donner le pouvoir du choix, le pouvoir d'exercer sa propre volonté, son libre arbitre, et qu'ainsi l'enchantement serait rompu pour l'éternité. Ainsi, Dame Ragnel et Gauvain sont unis dans le mariage sacré de deux êtres égaux qui sont liés par la liberté et par le choix conscient d'être ensemble. Dame Ragnel a été ensorcelée par un frère qui était trop faible pour pouvoir être le support de sa volonté à elle et pour pouvoir la protection, pour pouvoir la protéger, alors que ce chevalier Gauvain avait la compassion pour lui offrir la liberté, et c'est ce qui l'a transformé et libéré de sa monstruosité. Donc voilà qu'elle a que dans ce conte on parle de retrouver le pouvoir, et on peut tout à fait imaginer que les deux protagonistes de cette histoire soient deux parts de nous-mêmes, c'est-à-dire, comme je le disais en introduction, le masculin de cœur, qui est souvent blessé et donc qu'on utilise très peu dans notre société. C'est vrai que très tôt on dit aux hommes, aux petits garçons, de ne pas pleurer, de ne pas laisser libres leurs émotions, d'être des gens raisonnés. Et on supprime encore de nos jours la force de volonté des femmes. On leur dit « mais arrête, fais-moi plaisir, sois une gentille petite fille ». C'est-à-dire qu'on leur dit qu'elles n'ont pas leur libre arbitre, mais qu'elles doivent changer de comportement pour satisfaire, pour plaire. Voilà, pour être déjà dans la séduction et de gommer cet instinct rebelle qui ne sied pas du tout aux gentilles petites filles. Et si on regarde cette quaternité, donc ça correspond à, d'un côté, au masculin lunaire, l'homme de cœur, et à la féminité solaire, la femme de volonté, hein, le soleil, la volonté, la force de volonté, de pouvoir, d'avoir cette souveraineté à soi. Et on se rend compte que ces deux-là se rencontrent et s'épousent et se comprennent par la force de la compassion. Ces deux formes-là qui sont blessées, justement, dans notre société. Et lorsqu'ils se rencontrent, eh bien, il se passe quelque chose de merveilleux, c'est que l'être retrouve sa totalité et il se sent à nouveau mieux. Et je trouvais ça extrêmement intéressant parce que c'est très très en accord avec la peinture intuitive que je vous ai présentée, mais aussi parce qu'il est question de pouvoir et que c'est finalement le centre là que nous avons étudié tout au long de cet atelier, parce que c'est lui qui est en lien avec la blessure de trahison. Et donc ça me permettait de comprendre pourquoi cette peinture tout d'un coup me parlait de féminin solaire, parce que nous avons affaire à des blessures, à une blessure en tout cas, qui touche énormément de femmes, parce que justement leur liberté, leur libre arbitre, leur faculté de pouvoir être responsable de leur corps, de leur propriété, leur a été refusée depuis la Renaissance, hein, pendant énormément de temps, et également pendant la période romaine. À noter que pendant la période celtique, les femmes héritaient, elles avaient leur propriété, elles avaient leur nom de famille, et elles ne dépendaient pas d'un homme. C'est l'Empire romain, puis la Renaissance, qui ont remis au goût du jour le fait que la femme était sous l'emprise du père puis du mari. Et il y a cette blessure-là à accepter et à nettoyer et peut-être un jour à cicatriser. Encore de nos jours, selon comment nos jeunes filles sont éduquées, c'est quelque chose qui va être encore malheureusement... Voilà, c'est encore une blessure qui va être faite, et que on comprend que les deux parts, à la fois ce masculin lunaire et ce féminin solaire, vont se guérir ensemble. Donc c'est par l'homme de cœur, la rencontre avec l'homme de cœur, qui va donner un support et va permettre au féminin lunaire de s'étendre et de pouvoir briller et de pouvoir se guérir. Et en même temps, vice-versa, c'est la femme qui, un peu plus lunaire peut-être, qui va pouvoir aider le masculin lunaire de pouvoir oser être vulnérable et oser montrer ses sentiments, ses émotions, ce qu'il ressent, donc l'intégrité de son être. Les quatre parts de nous, finalement, vont agir en équipe pour pouvoir résoudre le problème causé par les multiples blessures. Et en ayant comme ça une équipe, une team de force et de personnalité, elles vont s'entraider. Mais on voit bien que là, avec un masculin qui était faible, donc le demi-frère de Dame Ragnell, hein, qui n'avait pas la possibilité d'accepter ou de soutenir sa sœur, c'était pas possible. Au contraire, c'est pire encore, parce qu'elle est soumise à un sort qui la rend encore plus hideuse. Et le fait de voir une femme hideuse, c'est tout de suite rentrer dans l'ombre de la femme. C'est pour ça qu'elle est transformée et qu'elle est moche, qu'elle a un visage absolument dégoûtant, une peau couverte de verrues. Donc ça ressemble un peu à l'idée de la sorcière qui est elle-même l'ombre de la femme, hein, de la femme aimante, de la mère Marie, gracieuse, compatissante, etc. La sorcière, c'est vraiment l'archétype de la femme de l'ombre, donc qui va agir en manipulant, en utilisant le pouvoir d'une autre façon que celle du cœur, pour obtenir ce qu'elle veut, donc séduire, agir de façon méchante et colporter des rumeurs, adorer les ragots, enfin, on voit un petit peu l'image. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est une femme, une sorcière déjà elle-même, qui a transmis cela. Alors que au début, c'est une jeune fille qui est innocente, certainement pure, et ça lui est transmis par une autre femme plus âgée qui est déjà sorcière. Donc c'est une façon de faire et un comportement qui est aussi obtenu par l'éducation, donc par une autre ombre de la femme, donc une ombre installée dans la société, hein, une tradition, donc on pourrait dire, qui est acceptée comme cela, mais qui continue à blesser. Et de l'autre côté, un masculin trop faible, et qui va même, lui, installer l'ombre de la sorcière sur la femme. Les deux vont jouer. Et la femme va alors, au lieu de continuer à se battre pour obtenir sa volonté, au bout d'un moment, elle baisse les armes et elle se transforme, elle agit dans l'ombre du féminin. Donc, c'est-à-dire avec peu de bienveillance, de façon très machiavélique, voilà, un petit peu vraiment tout ce qu'on peut voir, une femme très très sombre, très noire, qui utilise ses atouts pour obtenir ce qu'elle veut. Et elle va se changer, le sort va être levé parce qu'enfin il y a ce masculin-là qui est ce masculin du cœur, qui lui-même est résolu et qui va lui permettre, elle aussi, d'avoir cette volonté propre et de pouvoir l'exprimer. Et c'est un peu aussi ce qu'on voit de nos jours avec des jeunes hommes qui sont à l'aise avec leurs sentiments, qui sont parfois même un petit peu efféminins, qui prennent soin de leur apparence. Et c'est quelque chose finalement qui doit nous réjouir, parce que selon ce compte, si ça se passe comme ça, si les hommes ont comme besoin de prendre soin de leur peau, de faire attention à leur look, etc., c'est que le féminin lunaire, tout doucement, est en train de guérir. Et que cette guérison-là va permettre, en deuxième partie, de guérir également le féminin solaire. Sur cette belle conclusion, je vous laisse et j'espère que vous avez apprécié ce conte et vu l'importance qu'il a dans notre atelier, que ça vous a fait un petit peu rêver et entrevoir un beau futur. Je vous dis à très vite pour la suite. Salut, salut!